Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Cette semaine était organisée à Paris conjointement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Club Déméter, un forum consacré aux questions agricoles et alimentaires dont les enjeux sont moins présents dans le débat public, alors que selon la FAO, 815 millions de personnes sont sous-alimentées aujourd'hui dans le monde. Autant dire que les défis sont immenses dans un contexte où la population mondiale ne cesse de croître, 10 milliards de personnes à l'horizon 2050. Il faudra donc produire plus, également produire mieux, alors qu'il devient de plus en plus compliqué de contester l'existence d'effets sanitaires des pesticides sur les humains. Produire plus alors que selon la dernière édition de l'Atlas mondial de la désertification, plus de 2 millions de kilomètres carrés se dégradent chaque année dans le monde, l'Afrique et l'Asie étant les deux continents les plus touchés. 50% de la surface terrestre est aujourd'hui affectée par ce mécanisme lié aux variations climatiques et aux activités humaines. Regard et analyse avec nos invités. Mamadou Goïta, directeur de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement en Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Isambert, président du Club Déméter, qui regroupe plus de 50 acteurs français de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de la recherche et de l'innovation. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Blandinière, directeur général de Invivo, plus grande coopérative agricole française. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cet extrait de l'intervention de José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'était jeudi dernier, donc à Paris, à l'occasion du forum L'agriculture en 3D, 3D pour défense, diplomatie et développement. José Graziano da Silva.
L'année dernière, pendant ma visite au nord-est du Nigeria, là où Boko Haram sévit, j'ai eu l'occasion de rencontrer le gouvernement de l'État de Borno. Il m'a affirmé que si nous ne pouvons pas offrir aux jeunes des moyens de subsistance, ils n'auront d'autre choix que de rejoindre le groupe armé ou de tenter les chances en voyager vers l'Europe. Aujourd'hui, nous connaissons bien ce genre de situation. Dans tout le Sahel, aujourd'hui, les conflits exacerbés par la sécheresse obligent les éleveurs pastoraux à changer les routes de transhumance traditionnelles. Ceci aggrave la source de conflits avec les agriculteurs. Nous avons constaté que, dernièrement, le déplacement des bergers se dirige davantage en direction du sud, dans les zones agricoles, vers la frontière du Sahel. Ceci contribue à intensifier les conflits dans toute la région de l'Afrique du Nord. L'emploi des jeunes et des femmes est un élément crucial des efforts entrepris par la FAO contre la faim dans le contexte en conflit. Par exemple, au Niger, le soutien de la France à la FAO et au Programme alimentaire mondial, PAM, nous permet d'offrir des opportunités de travail aux jeunes et aux femmes dans la filière agroalimentaire. Cela a débouché sans un ralentissement du flux de personnes candidates à quitter leur région. Qu'est-ce que c'est qu'un berger sans chef? Il n'y a qu'une réponse, un migrant potentiel, surtout pour cette personne habituée à traverser le Sahel. Selon une enquête récente de la FAO menée en Syrie, 94% des personnes interrogées ont déclaré qu'un soutien agricole leur permettra de rester sur les terres et encouragerait d'autres à revenir. Lorsque les personnes se déplacent, l'agriculture leur offre des possibilités d'autosuffisance, ce qui contribue aussi à calmer les tensions avec la communauté d'accueil locale. C'est exactement ce qui se passe dans le nord de l'Ouganda que j'ai visité l'année dernière aussi. Là-bas, des communautés locales ont accueilli des milliers de migrants du Soudan du Sud et des républiques centrafricaines, en leur permettant accès aux terres communes. Nous devons bâtir les partenariats pour être valorisateurs de l'action humanitaire, du développement et de la paix pour répondre aux besoins immédiats. en Colombie, où le président Santos, lui aussi membre de notre alliance, a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir réussi à mettre fin à 52 années de la guerre civile. La FAO y a joué un rôle crucial au moment de la mise en œuvre des accords de paix. Comme dans beaucoup d'autres pays, en Colombie, le conflit avait ses racines en zone rurale. Il fait donc démarrer les accords avec des mesures pour consolider la paix. Une leçon fondamentale de l'expérience de la FAO en Colombie, il est essentiel d'investir dans les zones rurales pour permettre aux populations de produire la nourriture, même en période de conflit. J'aimerais conclure en vous rappelant les mots d'une des plus éminentes défenseurs de la paix, M. Nelson Mandela. Je cite, « Faisons la paix pour que nous puissions nous consacrer au travail qui a réellement besoin d'être réalisé. Je parle ici de soulager les sortes de pauvres et des sans-défense, car tant que la plupart de l'humanité ressente la douleur de la pauvreté, nous resterons tous prisonniers. »
Voilà, c'était le discours de José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO, jeudi dernier, donc la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, jeudi dernier à l'occasion d'un forum l'agriculture en 3D, organisé conjointement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Club Déméter. Alors, on a entendu José Graziano da Silva, agriculture et alimentation au cœur de la vie des populations et de la stabilité des nations, lien étroit entre sécurité alimentaire, développement et paix, la migration de détresse à la fois cause et résultat de la faim. Je vais vous demander à chacun de réagir. Mamadou Goïta, Jean-François Isambert, Thierry Blandinière. Mamadou Goïta, un commentaire.
Merci bien pour cette opportunité pour échanger sur un tel sujet aussi important que la sécurité alimentaire et toutes ses implications aussi pour la sécurité tout court, la sécurité humaine qui est un sujet aussi important aujourd'hui. Alors, cette intervention du directeur général de la FAO indique bien les liens qui existent aujourd'hui entre la situation d'insécurité alimentaire qui existe dans le monde et d'autres phénomènes comme la migration, la question de la jeunesse, notamment tout ce qui est lié aux questions démographiques, mais aussi la question de la sécurité tout court. Et ce lien est fortement établi actuellement dans les négociations sur le pacte mondial sur la migration qui se déroule au niveau des Nations Unies à New York et qui indique bien que l'une des causes profondes aujourd'hui de la migration, c'est la perte des moyens de production qui a été soulevée par le directeur général de la FAO. C'est toute cette oisivité de la jeunesse à cause de cette difficulté d'utiliser les opportunités qui existent aujourd'hui pour pouvoir s'impliquer dans les questions agricoles, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat agricole des jeunes qui rentre dans le cadre de la coopération entre les États, mais aussi tout ce qui est lié aujourd'hui à la mobilisation de cette jeunesse-là autour des groupes armés. Donc ce lien est fondamental et l'une des réponses aujourd'hui à la situation actuelle, c'est de mobiliser cette jeunesse, c'est de l'accompagner dans la mise en œuvre des activités liées à l'agriculture, l'élevage et la pêche pour que leur contribution soit une contribution non seulement pour aider à créer de la richesse, à créer des emplois, mais aussi à créer les conditions optimales pour une sécurité alimentaire.
Alors, Jean-François Isambert, on met rarement en avant l'insécurité alimentaire comme facteur d'instabilité internationale. Pour quelles raisons, d'après vous ?
Mais écoutez, je pense qu'il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte, parce que souvent, on se met dans l'immédiateté. Je pense que ce qui est important, c'est de penser sur les temps longs et d'avoir quelques éléments à l'esprit. José Graziano da Silva l'a soulevé, c'est notamment l'évolution de la population mondiale. On oublie le deuxième terme à cela, c'est que cette évolution de la population mondiale, 2,5 milliards d'individus en plus sur la planète, va se faire sur des surfaces agricoles qui ne vont, elles, pas augmenter, ou très peu. C'est-à-dire qu'on cultive aujourd'hui 1,6 milliard d'hectares à peu près, que on va pouvoir d'ici une trentaine d'années remettre 100 millions d'hectares peut-être en culture, en exploitation, mais qu'on va en perdre une quarantaine. Grosso modo, un gain net de 60 millions d'hectares pour nourrir 2,5 milliards d'individus en plus sur la planète, c'est largement insuffisant. Ça veut dire que partout on pourra le faire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faudra sans doute qu'on produise un peu plus et un peu mieux. C'est le premier point. Le deuxième point qui est important, et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'évolution des classes moyennes dans le monde. Mmh. C'est aussi un point très important. Enfin, la Banque mondiale le soulignait. 1,8 milliard en 2010, 3 milliards d'euros en 2020 et 4,9 milliards en 2030. C'est énorme. Les Asiatiques, les Chinois s'y préparent notamment. On le voit avec les routes de la soie. Et puis le troisième facteur, et c'est là où il est important de se projeter aussi sur les temps longs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On oublie que d'un côté, on a 400 millions d'Européens, de l'autre côté, on a 1 milliard d'Africains, que dans 30 ans, ils seront 2 milliards. Et la question, elle est réelle. Certains imaginent que c'est une folie. La Méditerranée pourrait constituer une douve infranchissable. En réalité, la question, c'est comment est-ce qu'on peut participer, avec nos amis africains, au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est une vraie question, c'est un vrai défi. Et au-delà de ça, pour que l'agriculture puisse se développer, ça a été souligné plusieurs fois, effectivement, l'insécurité, c'est aussi un véritable problème. Alors l'insécurité, elle peut être due aussi au conflit. Mais la faiblesse du régalien peut être aussi un frein au développement de l'agriculture, de l'agroalimentaire et aussi favoriser les migrations.
Faiblesse du régalien, voire absence totale du régalien. Oui. On y reviendra. Thierry Blandinia.
Écoutez, en entendant les intervenants autour de cette table ronde, ça m'a un peu inspiré quelque part sur le fait de dire que l'agriculture française a un rôle à jouer au niveau mondial, et pas seulement en réfléchissant aux exportations, qui sont clés aujourd'hui pour accompagner effectivement la demande de la consommation mondiale, mais aussi en responsabilité d'exporter notre savoir-faire agricole dans des pays qui en ont besoin pour aider justement les populations à vivre d'un métier d'agriculteur avec un revenu décent qui permettrait justement peut-être de rééquilibrer ce mouvement de migration des personnes en leur donnant suffisamment d'opportunités de pouvoir travailler sur leur territoire. Et c'est bien le rôle de l'agriculture. Et donc la France a une expertise formidable, notamment en France, bien sûr, en Europe, mais aussi déjà en Afrique et à l'international. On a des chercheurs. On est en capacité de trouver des solutions techniques pour pouvoir produire plus et mieux dans certaines régions du monde. Et je pense qu'on doit se mobiliser avec les pays, notamment africains, ça a été dit, pour rééquilibrer notamment ces flux migratoires entre l'Afrique et la France, pour créer des richesses localement dans ces pays africains que nous connaissons bien.
Alors, Mamadou Goïta, justement, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui pour l'Afrique, sur le potentiel de production, l'appui au secteur agricole? La coopération entre États africains, elle existe, la coopération internationale aussi. Quel est votre regard de terrain sur ce qui se passe réellement et l'importance ou l'absence d'appui au secteur agricole?
Je pense que le cas du continent africain est assez complexe, de par d'abord le nombre de pays qui composent ce continent, 54 au total, ce qui rend difficile toute généralisation d'un certain nombre d'éléments, mais il y a des points de convergence. C'est aussi complexe de par aussi la nature des régimes qui sont au niveau de ce continent-là. Donc si on veut faire un état de lieu, je commençais d'abord par un problème structurel assez important. C'est que la plupart des pays de ce continent ne disposent pas de politique agricole. Ça veut dire quoi? Que la vision à long terme pour l'agriculture, quel type d'agriculture nous voulons, à quelle fin, et avec quel type de collaboration, de partenariat, et avec aussi quel type de marché à promouvoir, ces questions ne sont pas répondues. C'est la vision à long terme qui permet de définir ces angles d'attaque pour essayer non seulement d'assurer un investissement durable sur l'agriculture, mais aussi de créer les conditions pour que l'ensemble des acteurs puissent bénéficier des opportunités qui existent. Ce continent a un potentiel énorme. On a parlé de la population. En même temps, c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. La jeunesse de cette population, des bras valides, des gens beaucoup plus instruits que ce qu'on avait déjà historiquement dans le pays il y a quelques années, constitue un vivier à exploiter. Mais cela dépend de la manière dont on va accompagner cette jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole et de faire les liens entre les besoins actuels et les opportunités de créer des emplois, mais aussi de créer de la richesse pour les pays. Le deuxième élément important, donc en dehors de cette question d'inexistence de politique agricole, il y a aussi une déconnexion entre les systèmes de production actuels dans beaucoup de pays et les systèmes de consommation. Donc les liens entre l'agriculture et les systèmes alimentaires n'est pas évident. C'est pour ça qu'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de la production dans la plupart des pays. Aujourd'hui, il y a une augmentation de la production, mais il y a en même temps une augmentation du nombre de personnes mal nourries En même temps, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas accès à cette nourriture qui est produite dans les pays. Donc, ceci constitue un autre élément, un autre phénomène important au niveau de ce continent. Donc, la question de la coopération, donc comment est-ce qu'on investit dans l'agriculture pour arriver à créer les conditions optimales pour qu'il y ait ces liens entre les systèmes de production, les systèmes de transformation de ces produits, de valorisation des produits, les systèmes alimentaires et les types de marchés que nous sommes en train de promouvoir constitue un défi majeur. Donc, il y a un certain nombre de risques qui sont là, sur lesquels on doit pouvoir travailler. On ne peut pas comprendre sur ce continent que cette jeunesse qui existe, que des projets liés à l'entrepreneuriat agricole soient des projets aussi à vision limitée. J'ai eu l'opportunité d'évaluer, pour le cas du Mali, les 10 années d'investissement dans l'entrepreneuriat agricole des jeunes entre 2002 et 2012. C'est un montant de 320 milliards à peu près de francs CFA qui ont été investis pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Mais la plupart des projets qui ont été soutenus, au bout de 3 ans, il y a moins de 8% de ces projets qui continuent à fonctionner.
Donc des projets trop courts, c'est cela que vous dénoncez,
c'est trop court. Et les conditions de mise en œuvre sont assez dramatiques parce que les taux d'intérêt du crédit agricole sont extrêmement élevés sur le continent. La durée de ces crédits est assez courte, les montants sont souvent insignifiants et assez frustrants, surtout pour les femmes, où on parle en milieu rural des petits crédits des femmes. On va donner 15 000 francs CFA à une femme pour qu'elle puisse s'en sortir, c'est pas possible. Donc dans le cadre de la coopération, on doit repenser le mode de financement de l'agriculture, on doit repenser les modes de production et aussi garder une certaine souveraineté des États sur la question agricole, souveraineté qui commence par l'élaboration de politiques agricoles cohérentes et faire les liens entre ces systèmes de production et les marchés territoriaux qui sont développés et de faire la coopération entre États dans le cadre des importations et des exportations en tenant compte des réalités de ces pays.
Alors que vous inspire Jean-François Isambert, Thierry Blandinière, ce que vient de dire Mamadou Goïta, les chantiers sont énormes, mais finalement, voilà, comment est-ce que l'Europe, comment est-ce que peut trouver une place dans cette problématique particulièrement complexe?
Jean-François Isambert. J'aurais envie de vous répondre, parce que je suis aussi agriculteur, parce que le développement m'intéresse et parce que je suis aussi un acteur de terrain, à la tête d'association d'une alliance internationale qui intervient dans une cinquantaine de pays, auprès de plusieurs centaines d'organisations de paysans, que finalement le développement agricole, partout dans les pays, se fait un peu de la même façon. Je vais vous raconter une petite histoire. Un paysan tout seul dans un champ, c'est pas grand-chose. Mais ce paysan tout seul dans son champ, quel que soit le pays dans lequel il est dans le monde, qui fait venir 4-5 collègues, il y a un échange qui se fait, et une petite étincelle. Et cette petite étincelle, c'est la base du développement qui, à un moment donné, peut permettre à un paysan d'arriver à nourrir sa famille régulièrement tout au long de l'année. Et si maintenant, avec ce paysan, vous mettez un technicien, vous mettez une centaine d'agriculteurs, vous augmentez la capacité qu'auront ces agriculteurs à produire plus régulièrement tout au long de l'année pour nourrir leur famille, voire un peu plus pour contribuer à l'alimentation de leur pays. Les questions qui vont se poser à ce moment-là sont très précises. Ce que je produis en plus et qui ne va pas servir à nourrir ma famille, comment j'arrive à le conserver? Comment j'arrive à le stocker? Et puis je vais le transformer et là, je vais l'amener sur le marché local. Et à ce moment-là, je vais me trouver confronté à des clients, à des acheteurs, à des collecteurs, mais je suis peut-être pas armé parce que je ne saurais pas me défendre, je ne connais pas les prix, peut-être que j'ai intérêt à me regrouper, peut-être que j'ai intérêt à créer une coopérative. Et puis vous avez des paysans sur le terrain qui vont commencer à vouloir se développer un petit peu plus vite que les autres. Ils vont dire, mais il me faudrait un peu d'argent. Vous voyez apparaître le microcrédit, puis vous voyez apparaître la formation des paysans, la formation des techniciens, et vous avez là toute la chaîne qui se met en place. Et vous vous rendez compte que la formation des hommes, la formation des paysans, on est sur du temps long. Et que demain, dans tous les pays du monde, mais notamment en Afrique, les gens vont majoritairement habiter en ville. Se posera la question de la distribution de l'alimentation dans des petites, moyennes, grandes surfaces. Et donc, comment des paysans, s'ils ne sont pas organisés, pourront participer à ça? Il faut que ces paysans-là arrivent à s'organiser, et c'est la seule façon qu'ils auront de tirer un revenu en approvisionnant ces différents marchés. Donc voilà comment se fait le développement. Et on est sur des temps longs, c'est-à-dire que ce sont des politiques qui se mènent sur 10 ans. Et on voit bien que les gens qui financent aujourd'hui ou qui participent au financement de l'agriculture sont relayés par des politiques et que le temps du politique n'est pas le temps du paysan, qu'on est sur des temps beaucoup plus courts et que c'est aussi un frein à ce développement. Et donc, voilà, si on veut que l'agriculture se développe, il faut aussi partir du terrain, des gens qui travaillent sur le terrain et eux peuvent avoir une véritable action.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-François Isambert, Mamadou Goïta et Thierry Blandinière dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Nous retrouvons nos invités. Mamadou Goïta, directeur de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement en Afrique. Jean-François Isambert, président du Club Déméter, qui regroupe plus de 50 acteurs français de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la recherche et de l'innovation. Et Thierry Blandinière, directeur général de InVivo, plus grande coopérative agricole française. Nous évoquions dans la première partie de l'émission les problèmes liés à l'alimentation et à l'agriculture en Afrique. Mamadou Goïta évoquait l'absence de politique agricole, la déconnexion entre production et consommation. Et Mamadou Goïta, qui, à l'occasion du forum organisé cette semaine à Paris, notamment par le Club Déméter, ce chiffre, 60% de ce qui est produit dans les champs en Afrique ne dépasse pas 5 km. Thierry Blandinière, un commentaire.
On voit bien que ces chiffres renvoient à la réflexion de l'organisation de la chaîne alimentaire dans certains pays africains, de l'optimisation de cette chaîne alimentaire, partant du champ pour aller jusqu'à l'assiette, et de regarder effectivement toute la déperdition, le gaspillage, qui est lié au manque d'investissement, d'infrastructures, notamment pour valoriser la production agricole. Et là, c'est un véritable défi collectif qu'on doit le relever, c'est-à-dire à la fois les États avec des politiques publiques qui ont une vision long terme, en capacité d'adresser et de financer des infrastructures. On parle de routes, on parle de voies ferrées, on parle de zones de stockage qui permettent justement de ne pas gaspiller cette production et de la valoriser. Et là, c'est un enjeu bien évident de politique publique, mais aussi certainement d'entreprises locales, internationales, qui nous permettrait justement d'apporter de la valeur ajoutée, notamment à cette production. Et donc, d'abord au niveau local, ce qui est important, c'est d'expliquer comment les agriculteurs peuvent mieux travailler ensemble pour organiser, alors on peut parler de groupements, de coopératives, bon, quelle que soit la gouvernance, à la limite, peu importe, l'important c'est qu'ils se mettent ensemble pour justement investir dans des outils de première transformation qui vont permettre de fixer la première étape de la valeur ajoutée et quelque part que cette première étape de transformation leur appartient. Et ça permet de fixer une production sur un territoire, d'avoir un lieu de stockage, de première transformation, qui permet justement à partir de cette première transformation d'éviter les pertes, de valoriser déjà la première transformation, que les agriculteurs gardent la marge de cette première transformation et ensuite de commercer avec d'autres intervenants dans la chaîne alimentaire. Et donc, il est important, dans un premier temps, de créer ce socle commun qui permettra de fédérer des groupements d'agriculteurs. Et ça renvoie aussi une responsabilité du gouvernement de structurer non seulement les infrastructures, mais les organisations politiques pour accompagner la création de ces groupements de producteurs qui vont investir collectivement dans l'outil de première transformation. Et à partir de cet outil de première transformation, on aura une base solide et des investisseurs dans l'agroalimentaire viendront. Ils pourront installer des usines, investir en toute confiance et à partir de là créer de l'emploi sur les territoires et relocaliser la production de produits aujourd'hui qui sont importés, de produits finis dans les pays, notamment en Afrique.
Alors, moi, à vous entendre, Jean-François Isambert, Thierry Blandinière, la solution paraît simple, Mamadou Goïta, travailler dans le collectif. Pourquoi quels sont les obstacles ?
Alors, je pense que ce collectif c'est une condition indispensable aujourd'hui parce que individuellement, je crois qu'il y a des limites objectives qui se présentent aujourd'hui en termes de capacité de production, notamment tout ce qui concerne l'apprentissage collectif qui est aujourd'hui fondamental pour les questions d'adaptation au changement climatique. On a besoin d'échanger les techniques, les technologies pour les questions spécifiques aussi liées à l'utilisation de certaines ressources comme la ressource terre ou la ressource en eau, comment rationaliser l'utilisation de l'eau qui va être un autre phénomène important dans l'avenir. Donc ce sont des choses qui doivent s'apprendre collectivement. Mais le plus fondamental aussi, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir accéder à ces outils de transformation et de valorisation de la production et de s'assurer que la question de la diversification alimentaire, parce qu'il y a des zones de production, mais où la malnutrition est aiguë tout simplement parce qu'il n'y a pas une diversification alimentaire. Donc cette diversification alimentaire aussi s'apprend en collectif. Mais la question d'accès aux marchés territoriaux, qui constitue des étapes extrêmement importantes pour que l'économie locale soit liée aussi au système de production et permette à ce que l'échange avec l'extérieur puisse opérer ne peut se faire que quand on est organisé. Parce que ce type de marché constituera un enjeu fondamental pour que la coopération internationale autour de la question alimentaire puisse opérer dans les bonnes conditions, mais aussi dans les conditions d'hygiène et les conditions sanitaires requises pour permettre à ce que ces échanges aient lieu. Donc, je crois que le collectif joue en amont et en aval pour non seulement produire dans les conditions optimales, mais aussi gérer les ressources productives qui sont en train d'être des enjeux fondamentaux aujourd'hui, notamment la terre en Afrique, qui est convoitée par beaucoup de pays, beaucoup d'investisseurs, et qui compromet le système de production. Mais aussi aider à ce que l'organisation, pour accéder au marché, coopérer avec les autres États puisse se faire dans des conditions aussi optimales. Mais ceci dépend un peu de la manière dont les États organisent les questions agricoles et font le lien entre la production végétale, la production animale et la production halieutique, parce que c'est un autre enjeu fondamental aujourd'hui où là, tous les conflits autour des ressources qu'on sont en train de s'aggraver dans les pays du Sahel particulièrement avec les effets des changements climatiques qu'on constate, mais c'est parce que les politiques publiques n'ont jamais su faire cette combinaison entre ces quatre segments, parce qu'il y en a quatre, il y a là aussi la foresterie, de l'agriculture, et qui contribuent tous à ce système alimentaire qui doit être cohérent, qui doit être à long terme et qui doit bénéficier des investissements en amont et en aval pour pouvoir l'accompagner dans sa diversification, mais dans son évolution.
Vous souhaitez rebondir, Jean-François Isambert, Thierry Blandinière, sur l'un ou l'autre des aspects.
Jean-François Isambert. Juste un mot pour dire que, effectivement, ce qui est important, c'est que les choses partent du terrain. Pour moi, il n'y a pas de modèle, parce que le modèle renvoie à une notion d'uniformité, et que je crois que tous, on est très attachés à la diversité, parce que diversité des terres, diversité des sols, diversité des climats, et donc diversité aussi des goûts, des capacités de chacun, tout ça engendre des agricultures qui sont différentes. Et je pense que c'est aussi, puisqu'on parle aussi de diversité alimentaire, c'est ce qui fait la diversité alimentaire, quoi. C'est cette richesse-là qu'il faut encourager. Mais cette richesse-là, elle ne s'exprimera qu'à partir du moment où les gens, les agriculteurs, ont la capacité, ont la volonté de s'organiser ensemble. Je me méfie beaucoup de tout ce qui est imposé, parce que finalement, ça ne rencontre pas d'écho. C'est d'abord le paysan qui, avec d'autres, va s'organiser. C'est ce qui peut permettre de faire vivre une région. Mais c'est pas une variété, ou c'est pas parce que vous allez faire un puits que ça y est, on a fait un puits, donc l'eau est là, donc les problèmes sont réglés. Pas du tout. Vous avez rien réglé du tout. Si ça se trouve, vous reviendrez 5 ans plus tard, vous avez financé un puits, il fonctionnera plus parce que les gens se sont pas organisés autour de ça. Okay. Et donc, moi, vraiment, le point fondamental, c'est l'organisation. Il faut que les gens, les paysans acceptent de s'organiser. C'est à eux de trouver le type d'organisation. Et si on a un rôle à jouer, si on est là pour les aider, c'est justement pour les aider à s'organiser. Pourquoi ? Pour leur permettre de choisir l'agriculture qu'ils veulent faire et la façon dont ils veulent la faire. Il n'y a pas de modèle, il y a une diversité de possibilités. C'est à eux de choisir, mais pas à nous.
S'organiser. Thierry Blandinière.
L'organisation, c'est clé, effectivement. Mais une organisation fonctionne que s'il y a un modèle économique associé à l'organisation qui intéresse économiquement les différents acteurs à travailler ensemble. Donc il faut créer les conditions de faire émerger ces modèles économiques qui permettent notamment à ces acteurs de dire « finalement, je choisis telle voie parce que je sais qu'en allant dans telle direction, je ne me trompe pas et j'aurai un retour sur mes investissements ». Et donc on sait qu'on est sur un temps long et que là, il est important d'avoir une politique publique de long terme qui stabilise ce cadre de référence où les acteurs peuvent s'engager. Et ça me fait réfléchir quelque part parce que je me dis que finalement, tout ça, c'est du long terme. Et que finalement, en attendant, il faudra aussi que nous, en France, on fasse passer le message de se dire que, vous voyez, on est d'accord pour travailler sur le long terme, pour aider les pays africains, mais en même temps, il faut que la France aussi accompagne par ses exportations des produits de qualité et que la France ne soit pas repliée sur elle-même et que quelque part, l'agriculture française a une vraie mission géopolitique pour accompagner peut-être un progrès de long terme, mais sur le court terme, d'être en capacité d'exporter des produits de qualité pour nourrir des populations qui sont en demande aujourd'hui et de savoir comment articuler à la fois le court terme et le long terme sur une politique intelligente.
Jean-François Isambert.
Effectivement, on est tous attachés à cette agriculture familiale. Et je veux dire, il y a deux points fondamentaux pour que cette agriculture familiale puisse se développer, à mes yeux. C'est l'égalité homme-femme et l'accès à l'éducation pour tous. Sont deux points essentiels, encore une fois, dans le développement de l'agriculture.
Alors là aussi, on est dans des situations idéales. Mamadou Goïta, après ça, j'ai une autre question pour vous, Mamadou Goïta.
D'accord, je voulais juste répondre sur l'aspect organisationnel, parce que le cas de l'Afrique aussi, il y a des opportunités qui sont mal exploitées sur ce continent-là. Il y a des regroupements régionaux, notamment ce qu'on appelle les organisations d'intégration régionale, les OIR, comme la CEDEAO, comme SEMA, comme le SADEC, etc., etc., qui sont des opportunités pour assurer une organisation régionale. Parce que c'est des États qui sont géographiquement proches, mais aussi qui ont des cultures alimentaires et agricoles qui sont similaires dans bien des cas, qui nécessitent aussi que l'organisation puisse dépasser le niveau national des fois pour aller vers les niveaux régionaux. Ça permet non seulement de mutualiser les ressources, mais aussi de mutualiser les savoir-faire et d'aider à ce que la question des investissements puisse être une question régionale, parce qu'il y a des infrastructures qui permettent de bouger d'un pays à l'autre et de faire circuler les produits et de faciliter aussi l'accès à des marchés qui sont beaucoup plus importants, qui ont une opportunité de connexion et de reconnexion avec les autres parties du continent. Donc je voulais insister sur cette dimension régionale et des industriels, parce que la question de l'industrialisation, l'agroalimentaire à l'Afrique est une question aussi fondamentale. Quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire avec une production record en matière sur le cacao, sur le café et autres, où le taux de transformation est extrêmement faible, et on va aller dans beaucoup d'autres secteurs, on retrouve là les mêmes dynamiques. Donc il est nécessaire aujourd'hui d'investir aussi sur ces outils, et ça ne peut que se faire qu'au niveau d'une dynamique régionale.
Sur la transformation, alors Thierry Blandinière, vous parliez de l'exportation de produits de qualité. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu de certaines responsabilités. L'Afrique et plus généralement les pays du Sud ont le sentiment de jouer à armes inégales avec le Nord, à qui ils reprochent un soutien appuyé aux agriculteurs et donc la mise sur le marché de produits subventionnés qui viennent concurrencer les productions locales, et puis les prix bas ne facilitent pas la permanence des agriculteurs. Qu'est-ce que vous répondez les uns et les autres à cette problématique?
Je crois qu'il faut réfléchir, comme je disais précédemment, sur l'articulation du temps court et du temps long. Clairement, il faut fixer une vision en disant les pays africains doivent produire, doivent transformer, doivent nourrir leur population localement. Et ça, c'est un programme, on en a parlé, qui nécessite des efforts en termes de gouvernance, en termes d'investissement d'infrastructures, d'énergie, pour attirer notamment des investisseurs qui vont apporter ce savoir-faire aussi de transformation pour relocaliser la production et garder la valeur ajoutée dans ces pays. Ça, c'est, on va dire, le long terme. En attendant, on est dans une démarche de court terme où il faut que ces pays-là importent des produits compétitifs aussi pour nourrir leur population, parce qu'il s'agit quand même à un moment donné de se poser la question du prix. C'est-à-dire que tout ça se fait à quel niveau de prix pour que quelque part le pouvoir d'achat, ça a été dit, effectivement il y a les classes moyennes qui émergent, mais quand même globalement il faut rester sur des prix compétitifs. Et les prix compétitifs, c'est l'équation qu'il va falloir résoudre entre certains pays qui sont naturellement plus compétitifs, pas forcément avec des aides, il faut le dire, par nature, parce que le climat, l'agronomie naturelle fait que, par exemple, en France, dans certaines régions de France, il y a des rendements qui sont exceptionnels, qui permettent d'avoir des prix compétitifs. Voilà, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil au Brésil, pareil en Argentine. Et donc, à partir de là, il faut comprendre qu'en Afrique, ça va pas être facile d'avoir les mêmes rendements et le même prix. Et donc, on a une équation à gérer entre le volume, la qualité et le prix, sur notamment des produits de première transformation. Et c'est une équation complexe. Je n'ai pas de solution toute faite, bien évidemment, mais je crois que ce qui est important, c'est de bien poser la problématique en expliquant que le monde ne va pas changer comme ça en 24 heures et qu'il va falloir organiser dans le temps long. Dès l'instant, on partage tous le même constat, qu'il y a des écarts de rendement, de prix, de valorisation, de main-d'œuvre, etc. Il faut poser les choses tranquillement sur la table et regarder comment, par des politiques de long terme, articuler une politique mondiale différente qui doivent nous permettre d'asseoir autour d'une table et de poser ces problèmes, et puis d'essayer de trouver des solutions avec des compromis au début, et puis certainement pour tendre vers un monde idéal. Mais encore faut-il qu'on exprime clairement la vision.
Jean-François Isambert.
Moi, j'ai le sentiment qu'au cours de ces 10 dernières années, la faim qui touche généralement les paysans les plus pauvres avaient reculé dans le monde parce que les prix étaient plus fermes. C'est-à-dire que des prix fermes permettent à des paysans de s'en sortir, d'arriver à faire vivre leur famille. Et ça me semble important que ces pays puissent rester soutenus, parce que, à mon avis, c'est un des seuls moyens que ces paysans ont de s'en sortir. Donc c'est quelque chose d'important, prix bas, prix ferme, plutôt des prix fermes, parce que c'est un enjeu essentiel.
Mamadou Goïta.
Oui, je crois que c'est là où il y a vraiment le grand défi, c'est de pouvoir travailler sur ces deux leviers. Et il faut d'abord jouer sur le conjoncturel, parce que la situation aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, de certains pays, c'est que même s'il y a la nourriture, les pauvres n'ont pas accès à cette nourriture-là, à cause d'un certain nombre de prix, de coûts de production et tous les phénomènes qui sont associés, ou des moyens, des infrastructures qui ne suivent pas. Donc ces zones-là, on ne peut pas les délaisser, mais aussi en même temps jouer sur le long terme, qui est le structurel, d'aider à ce que les conditions de production puissent s'améliorer, que les infrastructures puissent suivre, et qu'on puisse investir dans l'entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes, qui constituent un moyen fondamental aujourd'hui de donner de la valeur ajoutée à ces productions-là. Donc si on prend aujourd'hui, en termes de conjoncturel, donc d'aider à ce que les coopérations, les liens entre les États soient de coopération plus juste et plus équitable, c'est un travail qui doit être fait pour permettre à ce que les produits qui sont exportés ne viennent pas compromettre les systèmes de production dans les pays d'accueil. Ça, c'est un travail sur lequel qui doit être fait, et que la question des prix et de la qualité nutritionnelle de ces aliments puisse être avérée pour aider à ce qu'on puisse compenser un certain nombre de gaps qui existent au niveau de ces pays. Mais en même temps, travailler sur le structurel. Et le structurel, ce sont les différents éléments que nous avons évoqués. Si on prend aujourd'hui le cas du riz, qui est l'un des produits les plus importés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où la CEDEAO a développé une initiative qui s'appelle l'offensive riz, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des difficultés majeures. Même les pays qui ont une production suffisante, comme le Mali actuellement, qui est en train d'atteindre à peu près qui a 93% de ses besoins, il y a des difficultés, mais les importations constituent entre 23 et 24% annuellement. Donc il y a un problème entre la production et la question d'organisation du marché qui fait que les importations sont nécessaires, sinon certains ne vont pas accéder. Alors si c'est nécessaire en même temps, il faut introduire les questions des achats institutionnels, mais aussi d'autres phénomènes qui vont permettre aux producteurs de stabiliser sa production, d'augmenter les capacités et d'avancer. Donc il faut jouer sur ces deux leviers, sur le court terme, de continuer à réformer les relations de coopération dans le cadre des importations, des exportations de produits, et aussi jouer sur l'amont et l'aval des systèmes de production pour qu'il y ait une stabilisation, parce que souveraineté alimentaire ne veut pas dire les replis sur soi. Hein, les commerces entre États vont continuer à s'opérer, mais dans les conditions où on décide de ce qu'on veut manger, et en décidant aussi des politiques qui peuvent accompagner ce que nous voulons produire et ce que nous voulons manger. Ça, c'est fondamental.
Alors, avoir une politique agricole, hein, ça, on l'a bien compris. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, l'émission, le temps court à toute vitesse. Ça a été dit dans la journée de jeudi, à l'occasion de ce colloque, les États-Unis ont toujours une priorité, une politique agricole. On voit la Russie aujourd'hui émerger avec tout le bassin de la mer Noire. Enfin, la Russie qui est le premier producteur de blé au jour d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. La Chine qui fait également d'une politique agricole une priorité. Finalement, et pour conclure, ce qu'on sent bien, c'est que l'alimentation, l'agriculture, tout cela nécessite une mobilisation à l'échelle planétaire, comme pour le climat. Jean-François Isambert.
Oui, absolument. Et d'un mot, enfin pour moi, véritablement, l'agriculture, c'est vraiment un métier d'avenir. Et donc, puisqu'on parle de la jeunesse, je pense que c'est un message d'espoir. On aura de plus en plus besoin de se nourrir, et donc on aura de plus en plus besoin d'agriculture et d'agriculteurs. C'est le seul moyen d'ailleurs qu'a l'agroalimentaire de se développer.
Et 9 milliards d'êtres humains à horizon 2050, alors que déjà aujourd'hui il y a 815 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Thierry Blandinière, très rapidement en guise de conclusion.
Il y a un plan climat, il faut le lier au plan alimentation, parce que pour moi tout ça c'est une cohérence globale du mieux vivre ensemble. Et donc il faudrait rajouter ce volet alimentation qui n'est pas suffisamment mis en avant quand on parle du plan climat, parce qu'on voit bien que l'agriculture est une solution, hein, avec le puits de carbone notamment, il faut le rappeler, on ne va pas le développer, on n'a pas le temps en conclusion, mais simplement dire que l'alimentation doit s'intégrer dans quelque part et doit se coordonner avec le plan climat, notamment pour un meilleur équilibre mondial.
Mamadou, évidemment vous partagez en une seconde.
Oui, donc je crois qu'il y a des espaces aujourd'hui qui se créent sur lesquels on doit continuer à faire attention et à suivre, notamment le comité sécurité alimentaire qui est logé au niveau de la FAO, qui regroupe l'ensemble des agences internationales et de coopération bilatérale pour les questions alimentaires et les questions nutritionnelles, qui développe un certain nombre de thématiques avec des décisions qui sont avec engager les États qui sont sur les marchés territoriaux aujourd'hui, qui est en train de développer les investissements dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, on doit continuer à soutenir ces genres d'espaces pour que, effectivement, la question de la la culture de la nutrition puisse être débattue de façon multilatérale et bilatérale.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Mamadou Goïta, directeur de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement en Afrique, Jean-François Isambert, président du club Déméter, et Thierry Blandinière, directeur général de InVivo. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yann Leny, Nathalie Laporte et Steven Elsley. Samedi prochain, c'est François Bernard que vous retrouverez pour Géopolitique.